Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en cette fin de journée et pour évoquer les dernières informations en ce qui concerne la Coupe du Monde 2019. Et nous commencerons par la victoire du Canada face au Cameroun. Un seul but, un but à zéro pour les Nord-Américaines qui ont donc infligé une défaite aux Lyonnes indomptables. Elles peuvent s'en vouloir, ces Lyonnes, et nous allons en parler. C'est en tout cas la troisième défaite pour les équipes africaines engagées dans cette compétition et qui ont donc bien du mal en commençant la Coupe du Monde. Un premier match nul aussi dans cette compétition, nul et vierge, 0-0 entre Argentine et Japon. Un résultat très honorable pour les Sud-Américaines qui ont résisté au favoritisme de leurs adversaires et surtout qui ont inscrit leur premier point dans une compétition internationale. Les Bleus à l'air frais d'Andorre pour tenter d'alléger leur bagage et partir en vacances le cœur léger. Demain soir, la France jouera face à Andorre, 3 jours après sa désastreuse défaite en Turquie. Mission, rentrer à la maison avec 3 points. Mais qui sera aligné sur la piètre pelouse synthétique d'Andorre? Nous essaierons de deviner. Le Portugal, premier vainqueur de la Ligue des Nations, l'équipe emmenée par Cristiano Ronaldo a battu celle des Pays-Bas hier soir à Porto et les champions d'Europe sont donc les premiers à inscrire leur nom au palmarès d'une compétition nouvelle en Europe. Un trophée de plus pour Cristiano Ronaldo en route, qui sait, vers un nouveau ballon d'or. Et pour évoquer ces sujets ce soir avec moi, il y a 2 personnes qui veillent dans ce studio ici. Patrick Juillard et Franck Simon, bonsoir messieurs.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et merci d'être fidèle non seulement à RFI, mais aussi à ce foot féminin qui est plutôt intéressant pour beaucoup de joueuses. On découvre en gros plan, on va dire. Mais c'est un match intéressant et nous allons tout de suite partir du côté de Montpellier.
Le énième corner de cette première période avec Janine Becky, le ballon qui s'élève, toujours très loin, attention à la tête, et le voilà, le premier but de cette équipe du Canada.
C'est Boukalam,
Boukalam, la joueuse de Lyon, ça fait bien 1-0.
Et oui, ça fait 1-0, un but encaissé et une défaite encaissée aussi pour les Camerounaises des Lyonnes qui ont perdu sans doute, vont-elles s'en vouloir car elles encaissent ce but juste avant la mi-temps. On va tout de suite retrouver Frédéric Suto qui était au commentaire de ce match sur RFI avec Christophe Diremzian. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors racontez-nous, est-ce que c'était pour vous un bon match du côté de la Mosson ce soir ?
Un bon match, oui, dans la mesure où il y a eu du jeu, notamment proposé par les Canadiennes qui ont cherché à construire tout au long de la partie, alors à leur rythme, mais on a bien vu qu'il y avait quand même une sacrée qualité technique de la part de cette équipe nord-américaine. Il y avait un bon esprit, le public, on le disait, était là, un peu plus de 10 000 spectateurs. On a vu un match correct, oui, et c'est vrai que les Lyonnes indomptables, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. Bon, il y avait beaucoup d'envie, mais malheureusement, elles ont pris ce but effectivement en toute fin de première période, et cette défaite fait mal quand on voit la débauche d'énergie, tout ce qu'elles y ont mis durant la partie. Il y a derrière les Pays-Bas qui vont vite arriver, un troisième match face à la Nouvelle-Zélande. À l'arrivée, oui, match héroïque en quelque sorte des Lyonnes indomptables, mais une défaite 1-0.
Oui, un match difficile effectivement pour ces jeunes femmes. Et écoutons Christine Magny au micro de nos confrères de Canal+. C'était juste en sortant du terrain et c'était donc juste après cette rencontre.
C'est vrai que les grandes compétitions, ce sont les détails et on a pris un but sur un détail, mais je pense que dans l'ensemble du match, on a fait un bon match, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on se relève, on va digérer et on va continuer à travailler. Il nous reste 2 matchs. Ça veut dire que la compétition n'est pas encore terminée. On va tirer des leçons de la défaite de ce soir.
C'est sûr que la compétition n'est pas terminée. Franck Simon, comment avez-vous trouvé d'abord l'ensemble du match et puis évidemment la prestation des Lyonnes ?
Je trouve que c'était un match très rythmé, c'était un match avec de la technique, c'était un match qui était assez entraînant, facile à suivre parce que c'était des équipes qui se livraient alors que quelques heures plus tôt, on avait eu un match très fermé au Parc des Princes du côté de Paris. Et là, à Montpellier, à la Mosson, on a eu tout autre chose. On a eu du spectacle, alors on a eu parfois du déchet technique. Mais puisque vous me posez la question, je vais tout de suite battre ma coulpe hein, parce que j'ai été le premier à émettre des doutes sur l'équipe du Cameroun, des Lions. Et je le regrette à la lueur de ce soir, de ce match, parce qu'elles ont vraiment été très très bonnes, un très beau bloc, de belles individualités, un état d'esprit vraiment très conquérant qui nous a rappelé ce que proposent aussi les Lions indomptables masculins. Et donc voilà, à travers l'émission et ces premières minutes, je voulais aussi dire comme quoi voilà, je me suis trompé, je le regrette, mais en même temps je suis content de le regretter parce que ça veut dire que elles ont su se sublimer, mais j'ai peur qu'elles y aient lissé des griffes pour la suite du tournoi.
Ouais, et beaucoup d'énergie. Patrick Juillard.
C'est sûr qu'il faut se rappeler quand même que les Lions affrontaient ce soir le Canada. Le Canada, c'est une équipe qui reste, avant cette Coupe du Monde, sur 6 participations consécutives, qui en termes d'expérience et de vécu au niveau international, reste quand même largement au-dessus du Cameroun.
T'as 40 places d'écart, hein, en fait, au
voilà,
classement FIFA. C'est
au classement FIFA, les deux équipes ne boxent clairement pas dans la même catégorie. Donc, sachant cela, je trouve que les Lions ont fait un match, elles ont été vraiment
elles ont proposé
bonne facture,
quelque chose.
Elles ont été vaillantes, elles se sont pas contentées défendre et d'attendre que ça passe. Elles ont essayé de poser leur jeu. On a vu des vraies actions, des belles sorties de balles.
Des occasions.
Je lisais un peu les commentaires, leur reprochant de jouer à l'emporte-pièce. Je trouve que c'est très sévère. Je trouve que moi, j'ai vu quelque chose de cohérent. Après, malheureusement, il a manqué quand même... la capitaine, on a entendu parler de détails. C'est malheureusement plus que des détails. C'est, sur ce but, c'est quand même une chaîne d'erreurs qui aboutit au final à petite cause, grands effets, petite cause qui s'enchaîne, grands effets à la fin. Et malheureusement, ça entache un peu la prestation.
Frédéric.
Elles ont eu un ballon de but pour égaliser. Hein,
en seconde période.
À 20 minutes du coup de sifflet final. C'était exactement une copie conforme du but des Canadiennes avec un corner.
Et une tête qui fuit le cadre.
Du même côté.
Une tête
et la tête
de Mefometou. Ouais.
De Mefometou, effectivement. Tête piquée. Et on a bien cru que ça allait finir au fond des filets de Stéphanie Labbé. C'est passé à 50 cm du poteau. Mais elles l'ont eu, ce ballon d'égalisation.
Et Mefometou qui ensuite a sauvé son camp d'un deuxième but en repoussant sur sa ligne une tentative après que la gardienne se soit encore
pu être l'héroïne,
une fois un petit peu déchirée. Quoi,
mais Frédéric, il y a aussi peut-être une absence qui a pesé lourd. Enfin, moi, je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas eu l'attaquante du Paris FC, Mikaela Abam, qui avait fait une bonne préparation avec ses Lions et malheureusement, elle était blessée. Et peut-être qu'avec ce renfort, la fraîcheur qu'elle pouvait apporter, parce que elle allait découvrir la Coupe du Monde, je pense qu'elle aurait vraiment donné du tourment à la défense canadienne.
Oui, elle a manqué, Mikaela Abam, effectivement. Elle souffre des adducteurs. Ils espèrent, le staff camerounais espère pouvoir la remettre sur pied pour le deuxième match face aux Néerlandaises. Mais c'est vrai que devant, on n'a pas parlé d'elle encore, mais on a vu une Gabrielle Anguene, l'attaquante du CSKA Moscou, qui a été héroïque en quelque sorte.
Une guide, la guide de Lyon, vraiment.
Mais malgré tout, 90 minutes à faire des courses et des courses et des courses, parce que dès qu'on récupérait le ballon du côté des Lyons, on balançait devant, excusez-moi l'expression.
C'est un jeu direct.
Intention, effectivement, on passait le milieu de terrain et Gabriel Ngoné était quand même quelque peu esselé. Et c'est peut-être là que le Cameroun a pêché. On s'est un petit peu débarrassé trop vite parfois du ballon. C'est l'impression qu'on a pu avoir ici.
Oui et non, Frédéric. Moi, j'ai trouvé que c'était vrai sur le début du match, effectivement. Et petit à petit, on a vu quand même les Lions prendre confiance. Et le but est arrivé au moment où il y avait eu un bon quart d'heure du Cameroun. Et le Canada a un petit peu remis un coup de collier en fin de mi-temps. Et ça a été fatal au Cameroun, finalement. Mais moi, j'ai trouvé qu'elles n'avaient pas démérité. Alors, c'est vrai qu'elles ont eu tendance à sauter le milieu parce qu'elles ne voulaient pas non plus...
C'était un milieu très travailleur aussi, Feu Joe et les autres.
Il manque peut-être un relais technique, mais franchement, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que, contrairement aux deux autres équipes, le Nigeria et l'Afrique du Sud, la préparation du Cameroun a commencé tard. Ouais. Elles n'ont pas joué énormément de matchs amicaux et de préparation, contrairement à leur...
Ah, quand même,
un peu moins quand même que les Nigériens.
Oui, en Espagne, ça a travaillé quand même. Il y a eu des matchs.
Et donc, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Ouais. C'est un bloc assez cohérent.
Vous aussi, vous trouvez que leur prestation a été plus intéressante que celle du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, Franck?
Oui, absolument. Et l'Afrique du Sud, il y avait quand même des manques au niveau de l'équipe type qui ont fait beaucoup de mal. Il y a eu peut-être aussi un arbitrage qui a plombé ces Banyana qui participaient pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde. Le Nigeria très décevant, Nigeria qu'on attendait, les championnes d'Afrique et les Super Falcons qui n'ont pas proposé grand-chose. Et du coup, c'est vrai que ça reposait dans cette première journée, tout reposait un petit peu sur le Cameroun face à un grand du football international, le Canada dans le football féminin. Et franchement, il y a pas énormément d'écart dans ce qu'on a vu ce soir. Comme le disait Patrick, il y a pas grand chose. Et elles doivent être déçues. Et en même temps, elles ont dû prendre conscience que voilà, avec ce qu'elles ont proposé, elles peuvent peut-être aller taquiner les championnes d'Europe parce que derrière, il va falloir quand même jouer et la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Et ça sera pas simple.
Alors justement, ça sera pas simple pour le Cameroun. Qu'avez-vous pensé du Canada qui est une des équipes, alors peut-être pas favorite, Frédéric Sutto, mais quand même une des équipes que l'on place bien justement pour le travail fourni dans cette équipe qui progresse beaucoup ces derniers temps.
Mais disons qu'il y a une ligne d'attaque qui se connaît bien, et c'est vrai que quand on voit les Nick et les Prince, les Janine Becky, les Sinclair, bien entendu, on sent que effectivement le danger est là. C'est très propre techniquement, mais ça manquait un petit peu de vitesse, hein. Quand on approchait des 18 mètres de la surface de réparation camerounaise, bien finalement les Canadiennes, elles avaient du mal à avoir un peu plus de tranchant et des occasions de but franches. Elles ne s'en sont pas procurées tant que ça. Alors c'est un premier match de Coupe du Monde. Il va falloir trouver le rythme pour ces Canadiennes. Oui, c'est vrai qu'elles partaient de loin. Hein. On construisait patiemment, on remontait, on passait dans la moitié terrain.
Elles frappaient de loin. Elles avaient du mal. C'est vrai, Frédéric, elles avaient du mal à s'approcher de cette surface de réparation. Et une des rares fois, elles s'en sont approchées. Eh bien, c'était sur ce fameux corner qui a été mal négocié tout simplement par cette défense, par la gardienne, il faut quand même le dire. Hein. Annette Ndom, elle sort un petit peu à l'emporte-pièce et ça coûte cher. Il y a une absence de marquage aussi de la part des stoppeuses. Et c'est ce que disait Patrick, c'est une addition en fait d'erreurs individuelles qui conduit à ce seul but et qui les met vraiment dans la sauce ce soir après le match contre le Canada.
Mais le Canada a gagné, et avec cette victoire, on va pas dire que les Canadiennes sont déjà en huitième de finale, mais il leur suffira de battre les Néo-Zélandaises pour se qualifier.
Ouais. Oui, c'est pas gagné parce que les autres sont peut-être un peu derrière au classement FIFA, mais elles sont championnes d'Europe et on sait que les titres des fois continentaux sont plus difficiles. En tout cas, Patrick, comment vous avez vu, vous, cette équipe du Canada et notamment leur fameuse attaquante dont parlait Frédéric, la fameuse Sinclair?
Christine Sinclair, oui, Brett, hein. 35 ans, pratiquement la joueuse la plus ancienne en activité de cette Coupe du Monde, anciennes.
Ouais, t'as Formiga aussi, la brésilienne. 41 ans, il n'y a pas mieux dans le tournoi.
Voilà.
Ouais. Alors, mais Sinclair, elle a marqué 181 buts. Hein.
On sent quand même sa grande expérience, on sent qu'elle connaît cette équipe, ses partenaires sur le bout des doigts. Maintenant, personnellement, j'ai été un peu déçu, notamment sur ses tentatives, ses coups francs, ses frappes.
On a vu d'autres joueuses, on a vu Becky.
Elle a déjà été meilleure que ça.
Ouais, on a vu plus Becky ou Prince
sur les côtés, notamment
Prince
aussi,
qu'elle. Mais bon, elle apporte. Mais franchement, elle pèse parce que elle fait peur aussi. Elle a ce gabarit qui est impressionnant pour les adversaires. Et on sait que c'est une finisseuse, mais on sait aussi qu'elle peut se servir de ça pour appâter les défenseuses adverses et libérer de l'espace pour les autres. Et puis on l'a vu en toute fin de rencontre, un coup elle est dans tous les sens et ça perturbait les Camounaises qui tiraient la langue parce qu'elles étaient épuisées.
C'est vrai, hein, c'est bien résumé, Franck. Non, mais c'est vraiment, on a vu une Christine Sinclair qui nous a, non pas déçu, mais un petit peu en dedans dans la première partie du match, et on l'a senti monter en puissance, et dans les 10 dernières minutes, elle était partout.
Elle a fait le métier.
Et voilà, exactement. Elle a pris les choses en main, et on sentait qu'elle voulait mettre ce deuxième but, et elle a failli y arriver toute seule. Hein. Il y a eu cette tête plongeante là qui a bien failli faire mouche à un moment donné.
Non, Patrick. Mais finalement, c'est l'impression que j'en ai eue, plus globalement, pas uniquement sur le Canada, mais sur tout le match, c'est que ce sont deux équipes qui sont avant tout des blocs, des collectifs. Les individualités ne l'emportent pas, disons, sur l'expression collective. Et la grosse différence, finalement, si on peut comparer, c'est le gardien, c'est la gardienne de but. Celle du Canada est incontestablement une des meilleures du monde, et on l'a vu, il y a une netteté dans les prises de balles, il y a une qualité dans la lecture des trajectoires. Celle du Cameroun, je ne veux pas me donner l'impression de m'acharner sur elle, elle est quand même passée à côté de son match, elle a été approximative et elle a coûté cher à son équipe au final.
Il y avait déjà des inquiétudes parce qu'elles ont fait, je crois, 5 ou 6 rencontres pendant leur préparation en Espagne, mais elles ont joué un match officiel contre l'Espagne, elles perdent 4-0 et malheureusement Annette Ndom avait commis quelques erreurs ce jour-là et il y avait des inquiétudes au pays par rapport à elle, mais Alain Jumfa, le sélectionneur, a continué de lui faire confiance. Mais finalement, bon, voilà, elle a fait une erreur, les gens tremblaient un petit peu, mais je pense que c'est quand même une erreur collective. Il y a elle, effectivement, mais il y a aussi l'axe camerounais qui n'est pas bien positionné.
Mais il faut pas oublier sur le corner où elle fait cette erreur. Avant cela, il y a une sortie, il y a une mauvaise coordination, une sortie un peu tardive qui amène le corner. Donc déjà, on sent qu'il n'y a pas une communication optimale entre elle et ses défenseurs.
C'est un poste qui reste compliqué, ça n'a rien à voir, je dirais, c'est pas propre aux Camerounaises. Hein. Le poste de gardienne dans le football féminin, ça nécessite aussi de travailler de façon spécifique. C'est seulement maintenant qu'on commence à travailler de façon spécifique et je pense qu'elles vont continuer de progresser. Mais vous voyez, Annie, je sais pas si vous avez suivi d'autres matchs ces dernières journées, depuis le début, mais il y a de plus en plus de très bonnes gardiennes.
Jamaïque, notamment.
Celle de la Jamaïque, très bonne. On a vu la gardienne de l'Italie, excellente, Giuliani. Ouais. On a vu cet après-midi la gardienne, c'était la gardienne, je crois, de l'Argentine. Très forte aussi, Coréa. Donc voilà, c'est un poste où on est en train de s'améliorer. Il faut travailler dans le spécifique, c'est pas toujours possible.
Frédéric, vous avez eu aussi de l'admiration pour ces gardiennes aujourd'hui, notamment pour celle du Canada.
Oui, et on sentait qu'il y avait plus de sérénité, c'est vrai, dans le jeu de Stéphanie Labbé, notamment dans ses relances. Vous voyez, Annette Ngodom, il y avait effectivement ses prises de balles aériennes, pas toujours très assurées, mais dans sa façon de relancer le jeu aussi, ça nous a marqué. Très très vite, elle dégageait, mais ça tombait presque à chaque fois sur une tête.
Mais elle dégageait loin, Frédéric, en revanche, Annette.
Le bloc n'avait pas eu le temps de remonter. Ouais. Et au mieux, ça tombait sur Ondguéné. Et le plus souvent, c'était dans les pieds des Canadiennes.
Oui, mais bon, ça va progresser. C'est sûr, c'est qu'au même âge, parce qu'elles ont quasiment le même âge, Stéphanie Labbé et Annette Ngondom, c'est sûr que c'est pas la même histoire, la même trajectoire. Il y en a une qui joue dans la ligue professionnelle nord-américaine. Et puis une autre qui joue dans le championnat camerounais. Donc c'est
complètement.
C'est clair et ça n'enlève rien aux qualités de l'une ou de l'autre. C'est simplement qu'aujourd'hui, pour progresser à ce poste, il faut un travail spécifique. Ça veut dire que, les fédérations africaines, elles doivent considérer aussi qu'il faut un entraîneur des gardiennes ou une entraîneur des gardiennes.
Et c'est particulièrement sensible au Cameroun, qui dans ses équipes masculines est un pays qui a toujours brillé
par
la qualité
de, gardien, hein,
de ses gardiens, qui a toujours eu de très grands gardiens. À RFI, on sait quelque chose, puisqu'il y a un certain Joseph-Antoine Bell parmi les consultants. Et je pense que le Cameroun a de quoi avoir de très bons éducateurs ou éducatrices même pour ses joueuses.
Oui, ça se fait, on forme maintenant. Il y avait un stage il n'y a pas si longtemps d'ailleurs à Abidjan, pour vous dire, dans un pays d'Afrique de l'Ouest, sur le poste de gardien. Ça veut dire que les fédérations ont pris conscience de ça, ce travail à faire avec des éducateurs ou des éducatrices spécialisées, je ne veux pas dire diplômées, mais qui savent quoi faire pour préparer.
On avait reçu Jérémy Janot dans cette émission
l'émission.
Et il nous avait dit aussi qu'il avait été très surpris par les gardiennes féminines qui lui paraissaient faibles et il se demandait si c'était simplement une mauvaise préparation ou un manque physique et c'était vraisemblablement plutôt un manque de préparation spécifique. Frédéric, pour terminer et vous laisser partir dans la nuit Montpellier-Rennes.
Il y a encore beaucoup de travail. Hein. Christophe Niremzian vient de remonter de la zone mixte avec quelques pépites. Je crois qu'il a croisé Gabriel Ngéné, notamment Christine Madive. On vous entendrait tout ça dans les journaux d'RFI.
Bien sûr. L'ambiance dans le stade, c'était à peu près à moitié rempli, hein, on voyait sur l'écran de télévision.
Oui, moitié rempli, mais les spectateurs regroupés dans les parties basses des gradins. Mmh. Hein, et donc, l'ambiance était là.
Quel chiffre, Frédéric, alors, sur ce match?
Alors, écoutez, moi, je me suis avancé en disant 15 000 spectateurs. On nous a dit 10 700. Donc, un peu moins, mais on n'avait pas l'impression d'avoir un stade vide, comme ça peut être le cas parfois dans des rencontres féminines. Hein, et je crois que les spectateurs ont aimé ce qu'ils ont vu. Hein, ouais. Véritablement, il y a eu une hola qui a duré
plus que les
25 minutes,
000, plus que les 25 000, je pense, du Parc des Princes, ça c'est sûr.
Ah oui, alors là,
franchement.
On va y venir justement à ce deuxième match. Merci beaucoup, Frédéric Suto et Christophe Diremzian, qui étaient donc à Montpellier pour RFI, et à très vite.
À bientôt, Annie.
Merci. Vous faites allusion au Parc des Princes, effectivement, ce soir,
j'en reviens,
pas Annie. Très loin d'ici.
Ouais,
ouais. Vous avez croisé Alejandro Valente,
oui,
n'est-ce pas,
hein, le préfet
il
était
nous
là-bas.
A quitté rapidement pour.
Oui, il est passé derrière moi discrètement à un moment donné. Aussi discret que l'Albi Céleste féminine, mais qui a quand même fait, qui a quand même réalisé un.
Voilà, on y vient. Il y avait ce match donc entre l'Argentine et le Japon. Alors on l'avait dit dans l'émission, entre deux équipes apparemment que tout opposées, entre une qui a un palmarès déjà international, cette équipe du Japon qui a déjà remporté cette Coupe du Monde, et puis en face, eh bien une équipe qui est en totale reconstruction, une discipline en reconstruction aussi en Argentine, et pourtant, là, c'est 30 places qui les séparaient au tableau FIFA. Et pourtant, l'Argentine s'est extrêmement bien battue. Et l'Argentine a arraché un 0-0, ce qui est héroïque. Certes, il n'y a pas eu de but. Mais en tout cas, Gilles Verdez nous dirait c'est le match parfait. Personne n'a fauté. Personne n'a fauté.
Non, pas aussi
mais
loin
surtout,
que ça, mais...
l'Argentine a inscrit son premier but international. Son premier point, pardon, international, ce qui est un événement. Et écoutons Estefania Banini, celle, la numéro 10.
La
meneuse, exactement. La meneuse du jeu argentine, nous expliquer, eh bien, comment le ressenti à l'issue de ce match.
Estamos muy felices. Sabemos que Japón es superior a nosotras. Teníamos que hacer un partido.
On est très heureuse, dit-elle. On savait que le Japon nous est supérieur. On devait faire un match très intelligent. On a joué avec Gara, avec la hargne sud-américaine. Nous savions que c'était une grosse équipe et qu'on devait rester intelligente. Mais surtout, on a montré de quoi sont capables les femmes et la femme argentine. Et on est là pour montrer qu'on peut être sur un pied d'égalité. Alors évidemment, se comparant un peu aux hommes, mais par rapport aux grosses nations. Voilà ce que disait donc Estefania Banini. Alors vous qui étiez au stade.
Oui.
Alors Patrick s'est beaucoup ennuyé devant cette télévision.
Mais il y avait des trucs quand même qui étaient. Il y avait des trucs, je dirais, dans le contexte qui étaient très intéressants. Moi, je suis pas un familier du football sud-américain. Je pense qu'on commence à le savoir. mais j'ai vibré au moment des hymnes parce que j'aime énormément l'hymne japonais qui correspond vraiment. Il y a une ambiance dans cet hymne. Mais l'hymne argentin avec ses joueuses. Qui vibrait, on voyait, qui tanguait comme des rugbymen.
Qui est un hymne très difficile à chanter,
oui,
qui a des sautes de rythme très importantes.
C'était beau, c'était incroyable. On les voyait, elles étaient déjà, elles se projetaient sur le match. Et puis après, sur le terrain, bon, elles ont garé plusieurs autobus devant le but. Les Japonaises n'avaient pas l'air de vouloir contourner les autobus. Donc ça a donné ce match. Et c'est vrai que la joueuse Estefania Banini a eu le trophée, un joli trophée d'ailleurs, hein, mm-hmm. Je ne dirais pas qui le remet, vous savez, c'est un établissement.
Wendy Renard l'avait reçu l'autre jour, donc on l'a vu en gros plan plusieurs fois ce
quand
trophée.
Quand vous portez le numéro 10, que vous êtes Argentine, c'est
et
pas simple.
Et qu'on vous surnomme la petite Messi.
La petite Messi. Mais c'est vrai
compliqué.
Que les gens en fait, se sont enthousiasmés, là, les 25 000, en tout cas ceux qui étaient pour l'Argentine, se sont enthousiasmés pour elle parce que c'est vrai que elle a un toucher qui voilà, elle fait des râteaux, elle dribble, elle accélère, mais elle était un petit peu seule.
Oui,
elle
était un petit peu seule. En fait, c'est elle qui a les clés du camion pour dire les choses clairement dans cette équipe.
Alors, des autobus, des camions.
En gros,
il y avait un embouteillage.
Non, mais avant la Coupe du Monde, j'avais écrit un papier sur l'Égypte et j'avais titré Salah et l'autobus. Et là, c'est Banini et l'autobus, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il y a 9 joueuses qui défendent et on lui donne le ballon et elle doit se débrouiller. Non, mais
c'est
ce
un peu
match.
Il y a aussi
Jaimes
de l'Olympique Lyonnais en pointe, mais qui était pas toujours.
C'était
pas
difficile. Alors au stade, il y a l'atmosphère, il y a le public, il y a le
devant
bruit.
Devant l'écran, je pense que c'est.
Mais moi, j'ai regardé ça parce que je voulais le voir, parce que je savais qu'on en parlerait. C'était difficile. C'était difficile.
C'est peu dire.
Il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire, le Japon avait le ballon, mais n'en faisait presque rien. Et quand l'Argentine le récupérait, tout était dans les pieds de cette joueuse formidable.
C'est un jeu trop académique, le Japon.
Foot, c'est pas un contre 10, quoi. C'est deux équipes, normalement.
Ouais. Alors que les Japonaises, en tout cas, peuvent s'en vouloir elles aussi, parce que du coup, ce sont les Anglaises qui sont premières dans ce groupe, hein, puisqu'elles ont battu hier les Écossaises. Et donc, les prochains matchs verront s'affronter ces autres nations ensemble. Et ça risque d'être intéressant, parce que là, il faudra marquer des points.
Mais les Japonaises, elles ne gagnent pas à Paris. Elles étaient venues jouer il y a quelques années, l'équipe de France, c'était à Charletti. Mm-hmm. Elles n'avaient pas marqué, je crois d'ailleurs, et elles avaient donc perdu. Là, elles viennent au Parc des Princes, elles ne marquent pas. Et à côté de ça, c'est vrai que pour l'Argentine, compte tenu de ce qui se passe, notamment dans la société et dans le football féminin,
exactement,
c'est quelque chose de très fort ce qu'elles ont vécu.
Très symbolique.
Très symbolique. Alors après, comment vous rebondissez après ça? Est-ce qu'elles vont essayer de nous montrer quelque chose? Parce que clairement, comment il s'appelle l'entraîneur? Je crois que c'est Borrello. Carlos Borrello. Il leur avait dit tout simplement de ne bougez pas en fait. Hein.
Oui.
Vous défendez, vous allez pour faire un exploit. Mm. Elles l'ont fait. Pour moi, l'exploit, il avait eu lieu hier déjà. Mais bon, mais ça reste quand même un petit exploit.
Demain, des Sud-Américaines rentreront en jeu. Ça sera le Chili face à la Suède. On aura aussi Nouvelle-Zélande, Pays-Bas. Et puis, cher Franck, je sais que vous y allez du côté de Reims, au stade Auguste Delaune. Il y aura États-Unis, Thaïlande, États-Unis. Voilà, les championnes du monde en titre.
Ouais. Là, il y aura des buts. Je peux vous
encore. Espérons.
Ouais.
Espérons. Allez, direction maintenant les Pyrénées Atlantiques.
L'attaquant de la Roma pour enrouler jusqu'au second poteau. Ballon retrait,
oui.
Ballon retrait, l'ouverture du score sur la tête du défenseur central, Kanayan. Et le stade de Konya explose 1-0 pour la Turquie. Il y a le décalage là-bas pour la frappe.
La
frappe et le doublé. C'est Cem Güzünder qui vient inscrire le deuxième but turc.
On avait l'envie, on voulait prendre ces trois points. On n'a pas été bon, c'est un non-match. J'ai rien d'autre à dire. Très déçu et très énervé de la manière dont on a joué de la première à la dernière minute.
Zéro tir cadré, voilà, on a raté des gestes techniques. J'ai pas été bon, donc je pense qu'on est un peu tous passés à travers. Et maintenant, on a la chance de passer à autre chose rapidement pour le prochain match.
On prend une belle gifle ce soir.
Aïe, 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 une belle gifle, pas très glorieux, les champions du monde tombés dans le piège tendu par les Turcs à Konya. On en parlait vendredi soir, ils sont tombés dedans. La Turquie a battu la France 2-0 samedi soir dans ce petit stade où il y avait une ambiance très chaude et c'était au terme d'un non-match, comme disaient donc les joueurs. Les Bleus ont donc une chance de partir en vacances sur une meilleure note en gagnant demain soir leur match face à cette équipe d'Andorre, disputée donc dans une principauté où le stade n'accueille que 3300 spectateurs pour 76 000 habitants, disons que c'est proportionnel, sur une pelouse synthétique en plus qui n'a pas l'air d'avoir une grande qualité, mais ça ne peut pas servir d'excuse, a expliqué Didier Deschamps tout à l'heure au micro d'Olivier Pron.
Le maître mot, c'est s'adapter. On est là, les autres équipes sont venues aussi, c'est pas le même contexte, c'est pas le même adversaire, c'est pas la même surface de jeu, ça c'est un constat, tout le monde peut le faire. Mais ça dépendra de nous et ça sera à nous à trouver les solutions. On ne va pas prendre ça comme excuse. D'autres équipes sont venues ici, il y en a d'autres qui viendront. C'est à nous de faire le job et venir chercher les trois points. Ils sont aussi importants, ces trois points, que les trois points qu'il y avait en Turquie. C'est en Turquie, on ne peut pas revenir dessus. Là, on a la possibilité de prendre trois points de plus.
Et tac, une petite piqûre de rappel pour leur dire oui, ces trois points de Turquie qu'on aurait pu gagner, qu'on n'a pas gagné. En plus, avec cette défaite, avec zéro tir au but, faut passer à autre chose. Est-ce que ces Bleus peuvent passer à autre chose, Patrick, selon vous, face à une équipe d'Andorre quand même? Alors, je sais pas où elle est au classement FIFA, mais elle doit être assez bas.
Assez bas, oui.
C'est abyssal leur classement.
Oui. Non, mais ils ont intérêt parce que là, si après une déculottée, parce que c'est plus qu'une défaite, c'est une déroute en Turquie, comme celle qu'ils ont subie.
Ils se sont laissés battre quand même.
Ah, ils se sont laissés battre. Ils n'ont pas joué, quoi.
Voilà,
ils n'ont pas joué.
Mais c'était pas comme.
Ils ne sont pas tombés les armes à la main, effectivement.
Oui,
on ne va pas leur trouver des excuses non plus.
Pour moi, c'est une déroute. C'est-à-dire que c'est une défaite qui peut laisser des traces. Si, après cette défaite-là, ils ne font pas, d'une part, un bon match, en plus, n'obtiennent pas un bon résultat, c'est-à-dire ne mettent pas clairement un carton à cette équipe d'Andorre, je pense qu'ils vont passer un été difficile. Donc, ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix.
Franck ?
Pas mieux. C'est vrai que les années où on n'a pas une Coupe du Monde ou un Euro, on sait que ces matchs, à cette période de l'année, sont pas toujours évidents à gérer parce que voilà les gars n'ont pas forcément aussi... beaucoup eu de congés,
voilà,
ils ont vite enchaîné.
Ça fait un an quand même qu'ils sont à fond.
Ça pèse, mais ne cherchons pas à leur trouver des excuses, ils se sont fait marcher dessus. L'équipe de Turquie a obtenu ce qu'elle voulait, elle l'a bien obtenu et c'était une belle victoire. Alors vous disiez un petit stade en Turquie, mais moi j'ai l'impression qu'ils étaient 200 000 tellement il y avait une atmosphère incroyable.
Mais ils les avaient mis dans un stade de 40 000 places et pas dans un beaucoup plus grand justement
et ça a donné quand même ce que vous disiez, ce non-match. Maintenant, il faut aller à Andorre. Il me souvient qu'il y a bien longtemps de ça, la France est allée à Andorre. Je crois que ça fait 1-0
à la dernière minute, un pénalty de Franck Leboeuf. C'était très, très, très dur.
Ouais, c'était il y a quoi, 16-17 ans
En tout début des années 2000, je crois.
Et ça s'était pas bien passé déjà, avant ce terrain synthétique pourri. Et comme le disait Patrick, tout simplement, il faut non seulement il faut gagner,
mais avec la manière.
Ouais, il faut gagner avec la manière.
Il faut vite effacer le début de traumatisme de Konya.
Parce qu'ils sont dans la compétition, ils sont pas dans un match amical.
Oui,
de fin de saison.
Ça compte pour les éliminatoires.
Il faut enchaîner. Et je pense qu'il y a aussi de l'orgueil. Et il va falloir jouer là-dessus. Je pense que c'est sur ce levier-là que va sans doute actionner Didier Deschamps.
Et oui, Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris. Écoutons-le parce que, évidemment, il donne un conseil à ses camarades. C'est d'être un peu meilleur devant les Andorrans.
On s'attend à un match difficile parce que l'équipe en face va être regroupée, va nous laisser très peu d'espace, vite s'adapter par rapport au terrain. Après, ils exploitent le moindre contre, les touches offensives, les corners, les coups de pied arrêtés. Donc, ce genre de match demande beaucoup de concentration et de communication sur le terrain afin d'éviter les petites erreurs. Et ensuite, c'est à nous d'être tranchants et d'être efficaces le plus vite possible dans le match pour se rendre le match plus facile. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde les derniers résultats d'Andorre, ils sont plutôt cohérents, ils concèdent très peu de buts et ils laissent très peu de marge à l'adversaire. Donc même si on a sur le papier un potentiel supérieur au leur, sur le terrain, voilà, c'est à nous d'être à notre niveau.
Hugo Lloris au micro aussi d'Olivier Prandt, notre envoyé spécial à Andorre. Patrick, finalement, quand on écoute Hugo Lloris, ces Français doivent avoir peur des Andorrans, de leur adversaire ou d'eux-mêmes ?
Quand on écoute Hugo Lloris, il fait le boulot, il dit tout ce qu'il y a à dire sur l'adversaire, mais
au début, il dit
qu'il
faut être meilleur,
France,
être beaucoup plus concentré.
C'est elle-même, c'est-à-dire que comme il le dit, il faut qu'on marque vite. Il dit dans cette réponse, il faut qu'on marque vite. Et c'est clair, si la France ne fait pas un bon match, elle peut mettre du temps à marquer. Et contre un adversaire regroupé sur un terrain pas terrible, dans un cadre qui ne ressemble pas au cadre habituel d'un match de haut niveau, on peut vite sortir du match et se mettre en grande difficulté. Rappelons le match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Luxembourg, qui avait été catastrophique.
Et en France. Je crois que c'était à Toulouse.
C'était à Guingamp.
À Toulouse.
Attention.
Et le Luxembourg avait gagné la Coupe du Monde ce jour-là en battant.
Ils avaient fait un match remarquable. Vraiment. Collectif.
Et ils auraient mérité de gagner. C'était pas passé loin.
Mais Franck, justement, cette équipe de France, vu les lacunes qu'on a vues, peut-être aussi les absences, les fatigues de certains joueurs, est-ce que vous attendez à un 11 de Didier Deschamps très remanié?
Oui. Alors, j'ai pas prononcé le mot de suffisance sur ce match contre la Turquie parce que je pense qu'il y a d'autres ingrédients qui ont fait qu'ils ont perdu. Puis, faut pas non plus oublier les qualités de la Turquie, de cette équipe Turquie. Oui. C'est une équipe qui a pratiqué un beau football.
Qui
à la maison en ce moment et en plus est intouchable.
Exactement. Elle perdait pas depuis 5 matchs.
Ouais. Et puis c'est un championnat. C'est aussi un pays, un championnat qui
est compétitif,
qui est de plus en plus compétitif. Je sais pas si Patrick.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est ce que dit Eric Rabessandratana qui le commente chaque semaine.
On disait avant que c'était un championnat pour pré-retraités. C'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de joueurs de 24-25 ans qui vont en Turquie. Le niveau monte et
on l'a vu là parce qu'il
y a plus uniquement des joueurs en fin de carrière.
Donc il va falloir remanier effectivement cette équipe et lui donner, faut donner un coup de fouet.
De l'allant
et peut-être, je vais pas dire la rajeunir, mais utiliser des gars qui n'étaient pas là au coup d'envoi et puis aller chercher ce succès avec la manière. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce problème du terrain. Voilà, il y a une photo dans le quotidien L'Équipe de ce matin, ouais, avec toutes ces billes, ces gommes là, sur ce synthétique qui est pourri. Alors nous, on y joue, mais parce que on est les petits amateurs du dimanche matin. Mais pour des professionnels, c'est pas très agréable, ouais, parce que les endurants, pour le coup, sont pas des pros.
Et voire parfois, ça peut provoquer des blessures. On verra donc demain dans Radio Foot, eh bien ce qu'il en est de tous ces matchs de la Coupe du Monde féminine et aussi de l'aventure des Bleus du côté d'Andorre. Et nous allons retrouver Rémi N'Gono notamment, mais aussi Salim Bongali et Bruno Constant pour évoquer la Ligue des Nations remportée par le Portugal.
L'instar de Quincy Promesse, Bernardo Silva dans la surface, en retrait pour Guedes, la frappe de Guedes et l'ouverture du score pour le Portugal de Gonçalo Guedes. Pile à l'heure de jeu, le Portugal prend l'avantage dans une ambiance de folie. 1-0 pour le Portugal. Le Portugal remporte la toute première Ligue des Nations de l'histoire. Victoire 1-0.
Ça chantait dans le stade des Dragons hier soir à Porto. À jamais les premiers, et oui, les Portugais, eh bien, auront les premiers le nom du Portugal gravé sur cette coupe de la Ligue des Nations, ce trophée plutôt joli, gagné donc aux dépens eh bien, des Pays-Bas, décidément maudit. En finale, on va y revenir. En tout cas, les champions d'Europe sacrés à Paris en 2016 ont gagné ce titre européen. Avant de venir sur le match, j'aimerais savoir quelle valeur vous accordez à ce trophée, à cette couronne, à cette consécration. Écoutons d'abord Fernando Santos. Pour lui, c'est simple, c'est historique.
C'était la première édition de cette compétition et je crois qu'elle va perdurer. C'est un tournoi qui appartient à la famille européenne et en devenir le premier champion est quelque chose qui va rester dans l'histoire pour l'éternité. C'est une joie pour nous et pour le peuple portugais de gagner cette édition inaugurale. Cela va rester dans l'histoire. Mais allons de l'avant et continuons à travailler dur pour atteindre les prochains objectifs.
Salim Bongali, quelle est la valeur de ce trophée pour vous, ce premier trophée pour les Portugais?
Alors on a discuté avec Rémi et Bruno, mais moi, pour moi, cette Ligue des Nations et de l'avoir gagnée, c'est quelque chose de colossal. Alors certains vont me dire, oh mais la Ligue des Nations, c'est une compétition qui a été faite, hein, on a l'impression la va vite par l'UEFA il y a deux, trois ans au final, hein, plus ou moins
organisée. Préparée il y a trois ans, mais commencée en mai d'octobre dernier.
Exactement. Mais au final, c'est comme l'Euro en 1960, c'est comme la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des clubs champions en 1956. Ces compétitions, lorsqu'elles ont été créées à l'époque, on se disait qu'est-ce que c'est que ces compétitions avec un Final Four à 4. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Euro, c'était également Final Four à 4 également. Donc au final, ce genre de compétition, au début, on se pose des questions et c'est par la suite qu'on se rend compte de la valeur de ces coupes et donc de ces compétitions-là. La Ligue des Nations, le Portugal est dans l'histoire de ce trophée, c'est certain. Fernando Santos l'a très bien dit, c'est historique ce qu'a fait le Portugal. Donc évidemment, c'est un très grand trophée qui a été gagné.
Salut-moi.
On est d'accord, Ali?
Ah oui, on est d'accord.
Voilà.
Parce que c'est ça que je n'ai pas compris. Comment est-ce que les gens veulent me dire qu'est-ce que ça représente? Mais attends, quand la Coupe du Monde est créée par Gilles Rimet, alors qu'est-ce que ça représentait? Mais aujourd'hui, c'est toujours la Coupe du Monde.
C'est ça aussi que vous voulez dire?
Mais c'est les pionniers, bien au contraire.
Ça crée pas sa propre histoire.
Puisqu'on a vu les matchs dès le début. Mm-hmm. J'ai vu comment est-ce que la France a bataillé pour être qualifiée. Elle n'a pas réussi. J'ai vu comment l'Allemagne a bataillé pour être qualifiée. Elle n'a pas réussi.
J'ai vu
l'Italie, l'Espagne se faire éliminer. Et chaque équipe mettait ses meilleurs joueurs. Ce qui signifie que cette compétition, tout le monde voulait la gagner pour entrer dans l'histoire. Mais ceux qui ne l'ont pas gagné, ils vont me dire aujourd'hui, oh là là, bon, c'est parce que ce n'est pas une compétition qui est ceci. Et il y a un proverbe africain qui dit, mieux vaut un petit poisson qu'un gros cafard.
En tout cas, la presse portugaise aujourd'hui était dithyrambique. On voyait à la une des titres énormes. La Bola, cette coupe est à nous et tout ce qu'on peut imaginer avec évidemment les champions. Quelle valeur vous accordez à cette compétition?
Beaucoup moins convaincu et enthousiaste que mes compères. Autant la phase de poule, la phase de qualification a été une vraie réussite parce que ça a vraiment relevé une période de rencontres où souvent les matchs qualificatifs de l'Euro sont assez passables. Là, il y avait un vrai enjeu parce qu'il y avait des grandes nations qui se rencontraient. Autant le Final Four, où moi j'étais au Portugal durant ces demi-finales et finales, le niveau était quand même très moyen. On était quand même au bout d'une saison marathon, après, avec une Coupe du Monde, avec une longue saison, avec beaucoup de joueurs présents sur ce Final Four, étaient dans les clubs qualifiés en Ligue des Champions, que ce soit Liverpool, Tottenham, etc. Les joueurs étaient fatigués, épuisés. Il y a eu beaucoup de déchets techniques dans ces matchs. Et moi, j'étais au Portugal, à Lisbonne, et c'est pas là qu'il y avait la rencontre, hein. C'était à Porto, notamment la finale. Ouais. Mm-hmm. Il y avait beaucoup moins d'effervescence, notamment lors de cette finale, même de la part des Portugais. Alors, je pense pas que ça soit encore. Et surtout, l'euro existe déjà. Et l'euro. La National League ne remplacera pas l'euro. L'euro existe déjà.
Juste te mettre un petit bémol. C'est bel et bien toi qui étais avec nous ici pour nous dire que la Ligue des Champions, avec tout ce qu'il y avait comme déchets techniques, était bon parce que c'est comme ça une finale que ça se joue. C'est-à-dire que les gens sont fatigués et subitement, parce que tu trouves une autre finale qui est remportée par Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Non, vous voyez, il y avait les déchets techniques. Mais Liverpool, Tottenham, tu étais en train de nous vendre cette coquille vide de tortue-là. C'est pas possible.
Là, tu confonds la chose entre Liverpool qui avait perdu la Ligue des Champions la saison passée et qui devait la gagner à tout prix, peu importe la manière. Ça n'a rien à voir. Le Portugal n'était pas en finale de la Coupe du Monde l'été dernier, il a perdu, c'est pas ça.
Revenons sur le match, les amis. Hier, alors, parlons du côté sportif, on a eu l'impression que les Portugais avaient carrément asphyxié leur adversaire et on a pensé, je ne sais pas si vous, mais en tout cas, on pensait à la finale de l'Euro 2016 et qui s'était terminée aussi sur le score de 1-0 avec un but venu d'Eder à l'époque. Mmh. Bon, alors, c'était dans le temps additionnel, mais peu importe. En tout cas, on a eu l'impression que le Portugal jouait toujours ce jeu d'asphyxier l'adversaire.
Oui, j'ai surtout vu des joueurs d'une équipe des Pays-Bas qui étaient vraiment fatigués, épuisés, beaucoup de déchets, ce qui est très rare dans leur jeu.
Complètement.
Avec une charnière Van Dijk, De Ligt, qui a été très loin en Ligue des Champions, qui pour moi, la meilleure charnière aujourd'hui centrale au monde.
Et après, elle a joué une prolongation.
Et elle a eu surtout un jour de moins de récupération. Et sur un Final Four, demi-finale et finale, pour moi, ça me paraît trop, en fait. Et le Portugal a fait son match, on ne peut rien leur reprocher. Ils ont été plutôt bons. Ah ouais. Ils ne se sont pas créés non plus énormément de grandes occasions, il faut le dire aussi. Mm-hmm.
Quoi ?
Non, il n'y a pas eu
vous,
de grande.
Vous savez regarder le match.
Ils ont frappé beaucoup au but, Rémi, mais les occasions dangereuses, il n'y a pas eu grand chose.
Première mi-temps, le Portugal a 4 tirs cadrés.
Oui, mais les tirs cadrés, il faut voir les frappes.
Silsen se détend pour enlever la balle sur le côté montant droit. Attends, à une certaine période, vous n'allez pas dire qu'une équipe qui tire pendant un match 16 fois, comme on était en train de dire tout de suite, qui a 7 tirs cadrés, qui a aussi 9 corners, ce n'est pas une équipe qui a dominé. Attendez, le Portugal s'est créé pas mal d'occasions, et j'ai dit bien
que c'est les tirs. J'aurais pu être dans le but, j'aurais pas pris de but non plus.
Comme le Portugal ne tire pas, vous dites quand ils ont fini.
Il dit pas le contraire. Il dit pas que le Portugal n'a pas dominé, c'est un fait. On sait que le Portugal a dominé.
Ils ont gagné.
Après, de là à dire que le Portugal a surdominé les Pays-Bas, non.
Zéro tir cadré pour les Pays-Bas. Et vous dites quoi?
Bon sang.
Vous dites quoi?
Mais des tirs cadrés, ça veut tout dire.
90 minutes. Vous ne tirez même pas. Vous ne cadrez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que vous n'êtes pas dominé.
Mais bon. Vous dites
un corner.
On vous mettra pas d'accord.
Mais en tout cas, c'est un fait. Le Portugal, sur cette rencontre, mérite sa victoire, évidemment. Et encore une fois, et là, je rejoins Rémi qui doit être heureux. Cristiano Ronaldo, il pourra le dire à la fin de sa carrière, après sa carrière. Il a été le premier à soulever ce trophée.
En
termes de symbolique, ça comptera.
Écoutez ce qu'on chante dans les stades quand il y a Cristiano Ronaldo. Les supporters portugais, infidèles évidemment à leur capitaine. C'était même un peu la fête sur les Champs-Élysées hier, parce que vous le savez, en France, il y a une grande communauté portugaise. Et on pense à notre ami, collègue Nicolas Villas, qui était très heureux lui aussi hier soir. On a vu sur les réseaux sociaux la fête dans les rues de Porto. Moi, j'aimerais savoir une chose. Alors, je connais déjà la réponse, mais je vais quand même poser la question. Rémy Ngono, est-ce que ça veut dire que c'est le ballon d'or et la course au ballon d'or est relancée et que Cristiano Ronaldo s'est replacé dans la course?
Naturellement.
Ben non, il n'a pas été bon en finale. Comment il peut l'être?
Alors là, c'est... bon, puisqu'il n'a pas été bon à la finale, Messi n'a pas été bon à la demi-finale, il est donc éliminé d'office. Puisque Messi, de toutes les façons, une chose est sûre, Cristiano Ronaldo est le seul concurrent au Ballon d'Or, avoir déjà remporté 3 trophées cette saison. Messi, c'est 1 trophée. Il faut le savoir. Cristiano Ronaldo, c'est lui qui conduit ce Portugal-là à la finale avec un triplé contre la Suisse et non contre l'équipe de souris de Nicaragua. Messi fait son doublé. Donc justement, quand vous faites un doublé contre le Nicaragua, ça fait moins deux points pour la poursuite du Ballon d'Or. Donc, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est la preuve est là depuis 2000. Trois qu'il est en sélection du Portugal alors qu'il y avait les Ebio, ça fait 3 finales. Et sur les 3 finales, ça fait 2 remportées. Mon Dieu, Cristiano Ronaldo.
Je t'aime, c'est ça
Non, mais évidemment, Cristiano...
C'est ça,
ouais, j'ai fini sa phrase. Mais c'est un fait, évidemment, Cristiano s'est replacé. Après, attendons bien de voir Lionel Messi lors de la Copa América. Attendons de voir Sadio Mané et Mohamed Salah lors de la Coupe d'Afrique des Nations aussi. Un Salah avec l'Égypte qui évolue à domicile, qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres postulants pour ce trophée.
Vous aussi, vous mettez quelques bémols à Ronaldo.
Oui, parce que voilà, l'année va être longue encore. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de grands joueurs majeurs en finale de Ligue des Champions fait que ça redistribue les cartes, évidemment, avec Cristiano Ronaldo et Messi.
Un petit mot, on n'a pas le temps d'entendre l'entraîneur, le sélectionneur des Hollandais. Mais ces Hollandais, on ne les a pas vus très volants, on va dire, hier soir. Vous le disiez, ils avaient l'air fatigués. Pourtant, Ronald Koeman dit on ne regrette rien. C'est vrai qu'on a vu cette équipe des Pays-Bas beaucoup absente des grands rendez-vous récemment. Est-ce que malgré tout, il y a de l'espoir et qu'une équipe est de nouveau en progrès et de nouveau sur, disons, dans la sphère des grandes équipes européennes?
Il y a encore un an, on pensait même qu'ils étaient mortes, qu'ils absents de la Coupe du Monde, enfin une grande nation comme les Pays-Bas. Et là, en moins d'un an, ils sont revenus sur le devant de la scène, portés aussi un peu par l'Ajax et ces nouveautés.
Les finales ne réussissent pas, on se souvient de ces finales perdues.
Ceux ici en finale, c'est quand même pas loin non plus d'être du top. Donc, ils font clairement partie des favoris à l'Euro 2020. Ils ont une nation, enfin des joueurs qui arrivent avec De Ligt, avec Van Dijk, avec Van de Beek, avec tous ces jeunes, De Jong, etc., qui arrivent notamment à travers l'Ajax, qui vont ensuite jouer dans des grands clubs européens.
Ouais, ils sont
de retour.
Et c'est vrai que les Pays-Bas ont eu parfois quelques manques ces dernières années lors des grandes compétitions, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Là, on a l'impression qu'elles montent en puissance. On avait des doutes, mais les doutes ont été en quelque sorte résorbés et on a l'impression de voir cette équipe néerlandaise potentiellement intéressante.
Et se souvenir que les Bleus ont perdu l'Euro avant de gagner la Coupe du Monde.
Et voilà, une petite incursion dans le Radio Foot d'aujourd'hui. Je vous rappelle le résultat de la soirée, le match que RFI retransmettait ce soir. Le Cameroun battu 1-0 par le Canada. Franck, on disait des Lyonnes à la fois vaillantes et malchanceuses.
Oui, c'est une défaite qui reste encourageante. On a vu de bonnes choses. On espère qu'elles vont retrouver le même allant pour la deuxième journée. Pourquoi pas aller chercher le point du nul ou une victoire.
Oui, ça serait intéressant. Patrick Juillard, les Lyonnes, 3e défaite des équipes africaines sur 3.
Dommage, c'est peut-être la plus rageante des 3. Déjà parce que c'est une défaite d'un but. Un but, même pas sur une action de jeu, mais sur une phase arrêtée. Un but dû à une suite d'erreurs et notamment une mauvaise sortie, une mauvaise lecture de balle de la gardienne du Cameroun. Dommage, mais c'est quand même peut-être l'équipe africaine qui a donné la meilleure image, qui a fait la meilleure impression.
Ouais,
l'Afrique du Sud était enthousiasmante, mais vraiment très inexpérimentée. Le Nigeria est passé à côté, donc le Cameroun a un petit peu sauvé l'honneur de l'Afrique.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir veillé ce soir dans Radio Foot International. Merci à Laurent Salerno, qui était à la réalisation, et à Louis Lafargue, qui m'a aidé à préparer cette émission. On vous donne rendez-vous fidèlement demain à 15h10 en temps universel, 17h10 heure de Paris, pour Radio Foot International. Bonne nuit à tous.